France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Louan Deniel, Mélanie Chalandon, Fanny Richet et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Guirec Corbin. Soixante-dix ans après l'indépendance de la Tunisie proclamée en mars 1956 et 15 ans après la révolution de Jasmin, comment la nation tunisienne voit-elle ses ambitions de liberté contenues par le président Kais Saied? 4 épisodes pour raconter les désenchantements d'une nation. Nous parlerons demain des inégalités territoriales, mercredi d'une certaine xénophobie d'État, jeudi de la diplomatie tunisienne qui prend le risque de l'isolement, aujourd'hui une démocratie verrouillée.
Nous, notre message au pouvoir, celui de la part d'Ahmed Nejib Chebbi, d'Ayashi Hamami, de tous les autres emprisonnés et des jeunes, notre message, c'est faites attention. Les jeunes sont là, les jeunes manifestent. Nous sommes dans la rue, ce n'est pas à nous d'avoir peur du pouvoir, mais l'inverse.
C'est risqué, tout est risqué aujourd'hui en Tunisie. Tout est risqué, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit subir et se taire? Eh ben c'est pas dans nos gènes, ça.
En tant que Tunisien, je me bats au quotidien pour la liberté socio-économique et je pense que la démocratie est un moyen d'arriver à l'égalité et la justice sociale. Ce n'est pas une fin en soi. Et c'est ça le message qui reste encore brouillé encore en Tunisie. Là, il y a un clivage pour la démocratie ou contre la démocratie parce que certains voient que la démocratie est une fin, alors que non, la démocratie n'est juste qu'un moyen d'arriver à plus de justice et d'équité.
Ce sont ici qui un frère, qui la sœur de personnes jetées en prison depuis que le président Kais Saied s'est octroyé des pouvoirs élargis. Opposants politiques, journalistes ou hommes d'affaires arrêtés et jugés dans des procès où un SMS anodin peut tenir lieu de soi-disant preuve d'un complot ourdi contre l'État. Ou des avocats ou des juges qui dénoncent au tribunal la pression qui leur est faite sont à leur tour envoyés sur le banc des accusés. Et où les condamnations à 10, 20, parfois 45 années de prison sont présentées non pas comme une façon d'enterrer la révolution de 2011, mais au contraire de la poursuivre. 10 ans après le printemps arabe qui avait chassé Ben Ali du pouvoir et laissé espérer en Tunisie une véritable transition, Kais Saied a mené son coup d'État institutionnel sans trop de difficultés parce que le Parlement était devenu une foire d'empoigne et que beaucoup se sont réjouis de voir écartés de son enceinte les islamistes du parti Ennahda. Puis chacun s'est rendu compte que la purge et la répression ne se limitaient pas à eux. Et aujourd'hui, avec notamment un décret numéroté 54 qui criminalise la diffusion de fausses nouvelles, tout le monde est concerné, tous les leviers semblent activés pour réprimer la moindre contestation. Comment un homme, Kais Saied, que personne ne connaissait en 2019, a-t-il pu à ce point imposer ses propres règles et dans quels interstices politiques, institutionnels ou judiciaires, l'opposition parvient-elle encore à se glisser? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Sophie Bessis, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Vous êtes ici en studio avec Atem Nafti, bonjour.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut de Recherche et d'Études sur le Monde Arabe et Musulman, l'IREMAM, auteur de « Notre ami Kais Saied, essai sur la démocrature tunisienne » paru aux éditions Rive-Neuve en 2024. Et je dois d'abord dire en préambule que nous n'imaginions pas à quel point il nous serait difficile à Culture Monde de faire parler des chercheuses et chercheurs aussi depuis Tunis, mais également des personnes franco-tunisiennes, à une exception près pour en ce qui concerne Tunis, on l'entendra tout à l'heure pour le focus. Rarement on nous avait opposé autant de refus, que nous comprenons très bien d'ailleurs, et on n'a jamais insisté pour que les personnes interviennent, mais une forme de peur qu'il y a aujourd'hui à s'exprimer. Est-ce que cette émission, Sophie Bessis, et le fait d'y répondre vous a également provoqué des cas de conscience, et quand est-ce que tout ça a éventuellement commencé?
Certainement, et c'est très bien que vous posiez cette question au départ, dans la mesure où ce qui caractérise, je pense, la posture actuelle du régime tunisien, c'est une imprévisibilité dans la réaction. Imprévisibilité très grande. Si vous voulez, c'est peut-être une des différences les plus importantes avec l'époque de Ben Ali, qui était un régime autoritaire, bien évidemment, sans le moindre doute, mais parfaitement prévisible. Parfaitement dans la mesure où d'abord il n'y avait qu'un seul patron, qui était le président Ben Ali, c'était lui, que tout le monde lui obéissait. Et donc, tandis qu'aujourd'hui, en Tunisie, on ne sait pas très bien. Bien sûr, il y a le président Kais Saied, qui est, disons, le donneur de parole, plus que le donneur d'ordre, à mon sens. Et c'est pas tout à fait la même chose. C'est pourquoi peut-être j'aurais intitulé, vous parlez de démocratie verrouillée, ce qui n'est pas faux, mais je parlerais plutôt de cheminement démocratique entravé, davantage. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans ce cheminement entravé, qui était parti plus ou moins bien, plus ou moins mal, mais une transition démocratique, ce n'est jamais un cheminement linéaire, bien sûr, hein. Et donc, c'est ce caractère d'imprévisibilité du régime qui met tout le monde sur le grill, en définitive. Voilà. Chercheurs, comme moi, militants, politiques, membres de la société civile ou de ce qu'il en reste, effectivement, personne ne sait comment faire avec ce pouvoir. Et c'est ça qui est un élément de déstabilisation, si vous voulez, extrêmement important.
Et quant à vous, Atem Nafti, ça fait 3 ans, c'est ça, que vous êtes en France ?
Ça fait 3 ans que je suis en France. Ça fait beaucoup plus longtemps que je suis en France, mais ça fait 3 ans que je ne rentre plus en Tunisie. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Sophie Bessy sur l'imprévisibilité de la chose. Dans mon cas, je vérifie très régulièrement, je ne pensais jamais en arriver à ça, mais je vérifie très régulièrement si je suis poursuivi. À ma connaissance,
vous voulez dire en France,
en Tunisie, via des avocats, des magistrats. À ma connaissance, je ne le suis pas. Mais aussi, j'ai eu des informations, notamment de sources sécuritaires, sur le fait qu'on m'attendait au tournant et que ce qui vient d'ailleurs d'arriver à une opposante tunisienne qui a dû faire les mêmes vérifications, qui est rentrée, donc Olfa Hamdi pour la nommer, qui est rentrée, qui a été arrêtée, qui a été cueillie à l'aéroport. Et donc, on m'a prédit, en tout cas, ce genre de traitement. Parce que aujourd'hui, il y a cette émission peut facilement, ce que je vais dire peut être considéré par le pouvoir comme de la diffamation, et donc je peux encourir des poursuites sur la base du fameux décret 54. Mais il n'y a pas que le décret 54. D'ailleurs, il y a ce qu'il faut dans l'arsenal judiciaire tunisien répressif, qui, rappelons-le, est très largement issu de le code pénal a été promulgué par les autorités coloniales en 1913. L'actuel code de procédure pénale date de 1968, là où il y a eu les grandes purges et les grands procès politiques. Donc il y a ce qu'il faut, indépendamment du décret 54, pour arrêter n'importe qui. Et vous avez parlé tout à l'heure du cas, sans le nommer, mais du cas de l'ancien magistrat devenu avocat Ahmed Sueb, qui, dénonçant des pressions sur des magistrats, lui-même qui a été magistrat toute sa vie, en parlant d'épée de Damoclès ou de couteau sous la gorge, ça a été interprété comme du terrorisme, comme un appel à tuer ses anciens confrères.
Alors qu'il avait juste dit que lui avait le couteau sous la gorge.
Il parlait des juges qui avaient le couteau sous la gorge, ce qui est une expression imagée que tout le monde comprend, et ça a été considéré comme terroriste. Il a été, heureusement, il a été libéré, mais il a été condamné. Il a été mis quasiment 1 an en prison, il a été libéré. Donc il y a cette imprévisibilité et cette répression qui touche jusqu'aux proches du régime. Il y a actuellement un député aussi qui est en prison pour avoir critiqué le président, un député plutôt très proche du régime et très opposé à nous. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle se trouvent les personnes, et donc ce qui explique les refus que vous avez sans doute eus.
Et vous, veuillez m'excuser, quand vous avez dit que vous étiez poursuivi, j'ai cru que vous parliez d'être suivi dans la rue à Paris, alors que vous parliez de poursuivi en
justice.
Alors,
il y a les deux. Mais je ne suis pas poursuivi pénalement, mais effectivement, je me suis rendu compte que j'étais surveillé. Mais je parlais de poursuites, je vérifiais des poursuites pénales. A priori, il n'y en a pas, mais on m'a dit que voilà, c'était très possible que je me fasse arrêter en rentrant en Tunisie.
Sophie Bessis, je croyais que vous souhaitiez intervenir à ce qui venait
d'être dit.
Alors, est-ce que la question, là, au départ, la façon qu'on a eu de présenter cette série sur la Tunisie, c'est rappelé son indépendance le 20 mars 1956, donc les 70 ans seront célébrés ce vendredi. Est-ce que c'est une question politique en Tunisie que de célébrer ou pas cette indépendance? Est-ce qu'on sait d'ailleurs si le pouvoir tunisien prépare quelque chose pour le célébrer, Sophie Vessis?
Alors évidemment, le 20 mars est jour férié, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Kais Saied en 2019. C'est la plus importante fête nationale avec la fête de la République le 25 juillet. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, cette année, ça va tomber le même jour que l'Aïd, c'est-à-dire la fin du mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce qui va primer, disons, comme célébration? Ça va être un test extrêmement intéressant, d'ailleurs, de savoir, dans les discours officiels qui seront prononcés à cette occasion, si ce sont les vœux pour l'Aïd qui vont prendre le dessus, ou si c'est la commémoration de l'indépendance. C'est quand même 70 ans. 70 ans, cela veut dire que c'est une indépendance parvenue à maturité. Nous sommes à la troisième génération après l'indépendance. C'est important. Maintenant, effectivement, cette commémoration de l'indépendance a varié selon les époques et les régimes en Tunisie. Alors évidemment, à l'époque de Bourguiba, c'était la fête avec le 25 juillet qui était la proclamation de la République. En fait, ça a été une fête extrêmement importante, même s'il y a toujours eu des oppositions, des versions différentes de la façon dont l'indépendance de la Tunisie a été obtenue, mais c'est un moment fondateur de l'histoire de la Tunisie. Incontestablement. Quand même, c'est l'indépendance, c'est-à-dire c'est la sortie de la période coloniale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, effectivement, il y a, vous savez, l'histoire est la discipline la plus idéologisée des sciences humaines, toujours. Et donc, il y a, y compris dans cette date fondatrice, il y a une instrumentalisation de cette date fondatrice. Est-elle fondatrice? N'est-elle pas fondatrice? Et il semble qu'aujourd'hui, dans la logique du chef de l'État, il ne s'agit pas d'une date fondatrice. Voilà, c'est ça, je pense, qui est important. Et donc, on essaye de construire un discours autour de la recherche d'autres dates fondatrices. Voilà, et c'est ça, je crois, qui constitue une rupture dans ce continuum historique de la célébration de l'indépendance.
Atem Nafti ?
Oui, je m'inscris totalement dans ce que vient de dire Sophie Bessis, et je vais aller plus loin, parce que ce président de la République, Kais Saied, se rêve en grand chef de la Tunisie, et donc il a, c'est un, moi je dis souvent pour m'amuser, c'est un piètre historien, mais c'est un passionné d'histoire, et il a une obsession pour l'histoire, c'est-à-dire qu'il a choisi les dates symboliques de la Tunisie. Sophie Bessis a bien raison de rappeler aussi bien le 20 mars que le 25 juillet. Il a perpétré son coup d'État un 25 juillet 2021, le jour de la fête de la République, et depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2019, donc avant même qu'il ne s'octroie les pleins pouvoirs, il a évité de célébrer le 20 mars. Alors les deux premières années, c'était facile, c'était le Covid. Donc, et la seule fois où il a tenu un discours un 20 mars, c'était le 20 mars 2022, donc il venait de faire son coup d'État, et il a promulgué une série de textes qu'il a estimé très importants, qui en réalité ne le sont pas, c'est un petit peu son programme politique, et il a dit, et c'est ça qu'on voit, c'est là où on voit son intérêt pour l'histoire, il a dit je suis en train de signer ces trois décrets-lois qui sont plutôt d'ordre économique si vous voulez, sur la table même où a été signé le protectorat, après les historiens ont débunké ça, c'est une autre table, et plus moins anecdotiquement que ça, en réalité, dans son discours, il parle de guerre de libération nationale. Au quotidien, nous avons ce discours-là, il parle de guerre de libération nationale. Quand vous parlez de guerre de libération nationale 70 ans après l'indépendance, vous comprenez dès lors pourquoi il ne célèbre jamais cette indépendance. Et on verra ce que ça va donner cette année.
Un tout petit mot, Sophie Bessis.
Non, ce qui est extrêmement à la fois étrange et intéressant dans ce discours de la libération nationale, c'est la libération nationale contre qui? Voilà. Et on est en face d'une sorte de nuage conceptuel qui fait que effectivement le président Kais Saied a entamé une seconde lutte de libération nationale dont on ne sait pas très bien à qui elle s'adresse ou contre qui elle se fait. Mais effectivement, c'est un des mantras de ces rhétoriques, c'est la libération nationale. Parce que il ne faut pas oublier, ça c'est important dans cette explication de cette date symbolique, c'est que en fait, le président Kais Saied s'est octroyé, il n'a pas forcément tous les leviers aujourd'hui de la gestion du pouvoir en Tunisie. En revanche, il a le magistère de la parole. Et il gouverne, ou il tente de, par la parole, par une rhétorique, qui est cette rhétorique de la seconde libération, qui est cette rhétorique de la lutte contre un ennemi invérifiable, d'une certaine façon, mais dont on suggère qu'il pourrait être ceci ou cela, et qui change d'ailleurs au gré des événements. Donc cet ennemi est d'autant moins identifiable que c'est pas toujours le même. Voilà.
Mais quand vous disiez tout à l'heure, Sophie Bessis, que pour vous, Kais Saied est davantage un donneur de parole que d'ordre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il serait lui-même contenu par certaines forces?
Pas tout à fait. Je ne parlerai pas de contenu. Si le chef de l'État, il en est aujourd'hui à la moitié de son deuxième mandat, ce qui est quand même... Donc il est président de la République depuis 2019, cela fait 7 ans. Et... au fond, ce qui est intéressant à analyser dans ce discours, c'est qu'il continue à parler comme un opposant, très souvent. Il continue à parler comme un opposant dans la mesure où il dit, voilà, nous devons faire ceci, nous devons lutter contre, etc. Mais s'il est là, c'est aussi parce qu'il a des soutiens, et pas seulement des soutiens populaires, des soutiens institutionnels, bien évidemment. Et on peut voir que ces soutiens institutionnels déterminent aussi la politique menée par la Tunisie, par exemple, par rapport à la guerre aujourd'hui menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, alors que l'on parlait depuis des années d'une proximité très grande du chef de l'État avec le régime iranien et de ses proches avec le régime iranien. Aujourd'hui, la position de la Tunisie est extrêmement claire, c'est-à-dire qu'elle est aux côtés des États arabes qui sont attaqués par l'Iran. Et donc, cela veut dire, si on lit bien, que l'armée tunisienne a la main sur la position internationale de la Tunisie sur cette question-là.
Et on en parlera d'ailleurs plus en détail dans notre épisode de jeudi. Donc, le Kais Saied n'étant pas seul, en effet, il a l'armée avec lui.
Voilà, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seul.
Il n'est pas seul. Il a également, alors dans une moindre mesure peut-être, mais la police à qui il a par ailleurs demandé, dès les premiers jours du Ramadan, d'aller se poster dans les marchés pour voir si les prix restaient raisonnables, parce que les périodes de Ramadan sont souvent des périodes où les prix explosent et la Tunisie est déjà en proie à une certaine inflation. Donc, les policiers, bien sûr, se sont exécutés, on peut le comprendre, même si ça n'a sans doute pas contribué à changer le mode de vie des Tunisiens pour le moyen terme. Sur la police à Tem Nafti, qu'est-ce qui fait dans un régime démocratique qu'est la Tunisie ou qu'elle était encore jusqu'au coup d'État institutionnel de 2021, après une révolution par le peuple, quand un homme arrive et qui dit qu'il va limiter les libertés, réinstaurer ce climat où personne n'ose s'exprimer, fût-ce pour mener cette guerre de libération nationale, comme vous le dites, qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes, ici des fonctionnaires, policiers ou dans l'administration, le suivent?
Alors, on a eu une transition démocratique pendant 10 ans, et il y a eu, Kais Saied, pour moi, je dis souvent que c'est le résultat des échecs de la transition démocratique. Et parmi ces échecs-là, la Tunisie, effectivement, a été connue, ce qu'on disait notamment sous Ben Ali, comme un État policier. J'en veux pour preuve que le 14 janvier, le jour du départ de Ben Ali, les gens ne sont pas allés manifester devant le palais de Carthage. Ils sont allés manifester devant le ministère de l'Intérieur, ce sinistre bâtiment que les gens associent au pouvoir. Je vais aller au-delà, aussi c'est peut-être anecdotique, mais ça ne l'est pas tant que ça, dans le langage populaire, pour désigner un policier, on dit « hakem ». « Hakem », ça veut dire soit gouvernant, soit juge. Donc déjà, dans la psyché collective, les policiers détiennent le pouvoir. Et pendant cette transition démocratique, Donc ça s'est fait, effectivement, les premiers jours, c'était contre la police, il y a eu des manifestations contre la police, d'ailleurs l'armée était plaidée.
Jamais contre l'armée.
Jamais contre l'armée, effectivement, on voyait des gens offrir des bouquets de fleurs à l'armée, il y a toute cette imagerie qui a beaucoup circulé, notamment sur les médias occidentaux, et c'est vrai, mais c'était contre la police. Et très rapidement, l'institution policière s'est très vite refait une santé, notamment à la faveur du climat d'insécurité et du terrorisme. Et donc, on n'a jamais démantelé le pouvoir policier, c'est-à-dire que tous les gouvernants pendant la transition démocratique, y compris les islamistes, ont essayé de négocier avec les policiers. Et Raïs Saïd aussi a compris cela, et très vite, dès qu'il a été élu, donc je rappelle quand même très important pour nos auditeurs, qu'il a été élu sur les prérogatives, très rapidement si vous voulez, d'un président français en période de cohabitation. C'est-à-dire, il n'a pas l'essentiel du pouvoir. Et donc, pendant ce temps-là, et sans aucun député à l'Assemblée. Donc, il pouvait
en 2019.
Pas, en 2019. Et donc, pendant deux ans, entre 2019 et 2021, il est allé courtiser les forces armées, qu'elles soient civiles, donc plutôt la police, et que ce soit l'armée. Il a travaillé ce terrain, il a labouré ce terrain, et plus généralement, l'administration dans son sens le plus large, c'est-à-dire les administrations, que ce soit civiles, militaires, ou l'administration au sens primaire du terme, vivaient mal, si vous voulez, la transition démocratique et ces libertés qui étaient vues comme autant de chaos. Et donc, quand lui vient dire « je vais siffler la fin de la récréation », une expression qui se disait tout le temps en français dans le texte pendant 10 ans, eh ben, ces personnes-là, même si elles ne pensent pas la même chose que lui, ont compris que c'était le fossoyeur de cet état de liberté et ce qu'ils appellent, eux, le chaos. C'est pour ça qu'il est soutenu aujourd'hui par les forces de l'ordre, mais aussi par l'administration.
Sophie Bessy, je reprends une expression d'Atem Nafti qui parle de convergence des revanches. 2019, Kais Saied qui dit qu'il va siffler, et surtout 2021, ce coup d'état institutionnel, je rappelle, suspension du Parlement, on limoge le Premier ministre, et quelques mois plus tard, une nouvelle constitution, que en fait, plein de gens ou d'institutions se sont retrouvés dans ce qui s'est passé à ce moment-là.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier la puissance du discours populiste. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, de ce côté-là, la Tunisie n'est pas une île déserte. La puissance du discours populiste se déploie dans le monde entier aujourd'hui. Et on voit ses effets. Je vais vous dire une anecdote. J'interrogeais quelqu'un le 26 juillet, le lendemain de la suspension du Parlement, etc.
2021.
Une personne d'un milieu extrêmement populaire, une dame d'un milieu très très populaire. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses ? Et elle me dit, nous sommes tous et toutes dans notre quartier, qui est un quartier très populaire, nous sommes tous et toutes avec lui, parce que il est près du peuple et le peuple c'est nous. Voilà. Et ça marche. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de ce que, du premier jour du Ramadan, on est allé voir les spéculateurs qui augmentent les prix. Bon, les prix s'envolent toujours au début du Ramadan. Et donc, il y a eu quelques spéculateurs qui ont été sanctionnés et tout. Mais ça, c'est très populaire. C'est très populaire. C'est-à-dire que les gens disent, ils nous aident à remplir notre couffin. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il ne faut pas oublier toute cette rhétorique populiste et la puissance. C'est pourquoi je parlais d'un magistère de la parole tout à l'heure aussi. Ça marche. Ça marche. Et donc, effectivement, alors vous savez, c'est comme dans tous les pays du monde. Il y a, politiquement parlant, un immense marais qui ne pense rien. Voilà, ça c'est... Et c'est pour ça qu'on l'appelle le marais. Il y a des oppositions très... Je ne dirais pas structurées, le mot n'est pas pertinent dans la conjoncture actuelle, mais des oppositions qui existent. Et il y a, effectivement, des soutiens du régime qui ne sont pas négligeables, loin de là.
L'opposition, en effet, n'est pas très structurée. Elle a essayé, il y a eu la mise en marche du FSN, une coalition de partis politiques et de collectifs qui se disent opposés au coup d'État institutionnel de Kais Saied, et qui, alors le cortège a réuni 2500 personnes, ce qui en Tunisie reste très peu, mais des personnes qui, malgré leurs divergences politiques, des islamistes, des Nahda, au parti de gauche, ont tenu à se rassembler, c'était en novembre dernier.
Aujourd'hui, la seule solution, c'est que les gens se rassemblent pour dire non, basta, pour libérer tous les prisonniers politiques, pour un retour à la démocratie, un retour à la liberté et surtout un dialogue national qui n'exclut personne, même pas l'autorité en place, et discutons des vrais problèmes de ce pays. Ce pays est en train de s'effondrer économiquement, socialement, notre image à l'extérieur est devenue mauvaise. Il est temps d'arrêter tout ça.
Alors, c'est le secrétaire général de la Coalition nationale tunisienne qui s'exprime ici, Nadji Laloul. Alors, je veux juste, sans trahir de secret, mais m'étonner de ce que, pendant qu'on entendait ce son, vous avez reconnu la voix de cette personne. Est-ce à dire que ce sont toujours les mêmes qui manifestent Sophie Bessis?
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire que, il y a cette opposition, d'ailleurs, son absence de structure, sa tentative, est aussi la conséquence de ce qui s'est passé avant 2021. Évidemment, elle est sortie, cette opposition, avant même le coup de force de monsieur Kais Saied, est sortie très affaiblie d'une séquence 2019-2021 qui a été une séquence tout à fait chaotique dans la vie politique tunisienne, hein. Et donc effectivement, aujourd'hui, ce qui reste d'opposition a des voix emblématique que l'on reconnaît tout de suite quand on suit la vie politique tunisienne, incontestablement. Donc, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Et le fait que nous les reconnaissions, je vais être paradoxal, le fait que nous les reconnaissions est un symptôme de la faiblesse. Parce que si elles étaient extrêmement nombreuses, si elles étaient extrêmement diverses, nous ne les reconnaîtrions pas toutes.
À Temnafti, il se trouve que cette manifestation du mois de novembre, la chaîne de télévision publique en a parlé 36 secondes en tout et pour tout. Je ne sais pas si elle a eu des problèmes ensuite, si les journalistes ont eu des soucis, le fait d'avoir parlé de cette manifestation. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette coalition de partis politiques et de collectifs contre le coup d'État institutionnel, donc le FSN? Est-ce que les personnes qui sont allées défiler ont réussi à aller par-delà leurs divergences, qui portent essentiellement sur la place à accorder aux islamistes d'Ennahda dans cette opposition?
Alors, l'opposition reste divisée. Le FSN s'est constitué en 2023 autour de Ennahda, mais avec une figure emblématique de l'opposition plutôt séculariste, donc Ahmed Najib Chebbi, qui aujourd'hui est en prison à 82 ans dans une affaire de complot contre la sûreté de l'État. Mais en réalité, l'opposition reste très, très divisée. C'est-à-dire, elle est très faible. Là, en l'occurrence, le 22 novembre, c'était à l'initiative de la famille de Ahmed Sueb, ce magistrat dont je vous ai parlé. Et l'idée, c'était, on va contester c'était l'injustice, le dhulm. On va aller défiler contre l'injustice. Ce qui, soit dit en passant, est très dépolitisant, mais l'idée, mais ça en dit long sur l'état d'esprit de l'opposition, parce que on n'arrive pas à créer des convergences.
Et c'était pas juste pour que la manifestation soit tout simplement autorisée,
non,
que
les
de dire qu'on va
lutter contre... systématiquement autorisées. Je vais aller au-delà de ça. Vous m'avez demandé si moi j'étais embêté. Moi, j'arrive à vendre mes livres à Tunis. Mes livres se vendent et pas du tout sous le manteau à Tunis. Donc, en réalité, le régime ne perd pas grand-chose. Au contraire, même quand le journal en parle, ils disent c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de dictature. Voilà, les gens défilent et on en parle à la télé. Donc ça, c'est un gain pour le régime. Mais en réalité, l'opposition reste très structurée. Je vais rapidement schématiser. Il y a trois pôles de l'opposition. Il y a les deux grands partis qui ont structuré l'histoire de la Tunisie, à savoir les Destouriens, donc les héritiers de Bourguiba Ben Ali, et les islamistes. Et il y a là aussi, se marrer dans l'opposition qui va, j'utilise un référentiel français qui ne s'applique pas forcément totalement, qui va, si vous voulez, de l'extrême gauche au centre droit, qui sont les forces qui sont ni dans l'un, qui se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre, mais qui, tout mouillé, n'arrive pas à, voilà, 2000, c'est très bien, on a eu des manifestations à 3000, 4000, ça n'a rien à voir avec les grandes manifestations qu'on a eues entre 2011 et 2021, en 2013, on a eu des centaines de milliers contre le pouvoir en place, mais pas plus que le mouvement qu'il y a aujourd'hui, vous en parlerez, donc je ne vais pas trop m'étendre, à Gabès, qui est un mouvement, mouvement socio-écologique qui arrive à drainer beaucoup plus de monde, mais qui ne demande absolument pas la chute du régime. Et qui ne demande pas du tout des avancées démocratiques. Et donc, en réalité, aujourd'hui, il y a très, très peu de personnes. Et si vous voulez, à chaque manifestation, parce qu'il y en a, alors maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais entre toute la période de l'arrestation d'Ahmed Sueb, ça, c'est quelque chose, parce qu'il arrivait à faire converger des contraires. Mais il y avait des manifestations, allez, une à deux par mois. On était toujours dans cet étiage-là, mais à chaque fois, c'était un psychodrame sur « je ne veux pas manifester avec un tel, je ne veux pas manifester avec un tel ». Donc l'opposition reste structurellement divisées entre elles, et ça fait le jeu du régime.
Et alors, le Parlement, lui, à quoi ressemble-t-il aujourd'hui, Sophie Bessis, puisque personne ne nie qu'après la révolution 2011, le Parlement était dysfonctionnel, que les groupes politiques, alors il y en avait de très très nombreux, d'ailleurs je crois plus de 200 partis politiques avaient été créés après la révolution, que parfois ça virait à la foire d'empoigne, qu'il y avait des insultes, et que Raïs Saïd est arrivé en disant qu'il allait remettre de l'ordre dans tout ça. Il y a eu de nouvelles élections législatives en 2024, donc le Parlement fonctionne comme un Parlement. À quoi ressemblent les séances?
D'abord, les pugilats que l'on a pu observer n'ont pas eu lieu pendant toute la période de la transition. Les pugilats ont eu lieu essentiellement entre 2019 et 2021. Avant, il y avait des débats qui pouvaient être des débats extrêmement énergiques, par exemple autour de la Constitution, autour de... il y a aussi, je crois, une chose qu'il convient de mentionner. La Constitution de 2014, celle qui a été adoptée après 2 ans ou plus de débats qui ont mobilisé l'ensemble du pays, pas seulement de la classe politique, était une constitution parlementaire. Qui s'inscrivait en faux par rapport à l'ère de Bourguiba, à l'ère de Ben Ali. Et donc, même si le président est élu au suffrage universel, c'était une constitution parlementaire. Et c'est cela qui gênait le chef de l'État. Donc, on est revenu à un hyper-présidentialisme qui est en fait, malheureusement, bien sûr, une des constantes de la vie politique tunisienne depuis l'indépendance. Donc là, si vous voulez, le régime de Kais Saïd est à la fois fait de continuité et de rupture par rapport à ce qui s'est passé depuis l'indépendance. Et l'hyper-présidentialisme est une continuité. Ce n'est pas une rupture. Disons, au contraire, la période parlementariste, là, c'était une rupture avec la continuité tunisienne, réellement. Et c'était l'apprentissage de nouvelles formes d'exercice, du débat, du pouvoir, de la prise de position, etc. Bon, tout cela est effacé maintenant. Effectivement, c'est effacé. On est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une période où cette transition est entravée. Moi, je crois que la question qu'on peut se poser, c'est pour combien de temps, de quelle façon les oppositions pourront-elles reprendre une parole crédible? Parce que ce qui est important dans ce qu'a dit Hatem Neftis, c'est Gabès. Gabès, c'est une revendication claire, nette. On ne veut plus mourir empoisonné par l'industrie chimique installée dans notre ville. Voilà, c'est ça. Et donc, pour l'instant, les Tunisiens et les Tunisiennes n'éprouvent pas le besoin de savoir quel serait le régime à venir ou quel serait le régime idéal. C'est comment est-ce qu'on peut améliorer notre quotidien, comment est-ce qu'on peut éliminer les obstacles les plus importants à une vie normale.
Et on en parlera plus longuement demain des mobilisations à Gabès, mais aussi dans d'autres territoires délaissés de Tunisie où on demande à être mieux pris en compte. Mais pour justement refaire le lien avec le Parlement, à Gabès, région dans le sud de la Tunisie, il y a des députés censés représenter les habitants de cette région. Quel rôle joue-t-il aujourd'hui à Tem Nafti depuis les élections législatives de 2024? Est-ce qu'ils ont véritablement un rôle de porter une parole au nom de leur région, mais aussi pour tout un pays? Vous aviez plutôt remarqué qu'après les élections législatives de 2024 et toutes les règles drastiques qui avaient été imposées pour se présenter à ces élections, la campagne s'était resserrée autour d'éléments très micro-locaux, pour
juste,
le dire vite.
Juste oui. Un mot, excusez-moi, j'ai oublié de le dire dans la réponse, c'est que le code électoral a totalement changé. Mmh. C'est-à-dire que les élections au Parlement ne se font plus du tout sur les mêmes logiques que les élections depuis 2011. Où c'était la proportionnelle intégrale au plus fort reste. C'est fini, ça. C'est un scrutin majoritaire, donc qui fait émerger des notables locaux, essentiellement.
Justement, donc pour poursuivre sur ça, les règles ont été drastiquement changées et elles ont été, là pour le coup, on parle de populisme, c'est contre les partis politiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas interdit le parti politique, mais on a tout fait pour que les personnes qui se présentent ne se présentent sur leur nom. Vous me direz, en France, les élections législatives sont aussi des scrutins uninominaux. Sauf que le soir, vous saurez ce qu'a fait la droite, la gauche, le centre. Vous avez des regroupements. Là, c'est totalement autre chose. C'est-à-dire que sur le bulletin, vous n'avez même pas le droit d'indiquer votre affiliation partisane. Vous vous faites élire sur un programme et national et local pour la Chambre basse, donc pour l'Assemblée des représentants du peuple, mais sans aucune logique de regroupement. Ce qui fait que le Parlement d'aujourd'hui, il a beaucoup moins de prérogatives qu'avant. Déjà, on était dans un régime plutôt parlementaire, à dominante parlementaire. Là, ce sont des personnes qui se sont présentées parce que, déjà, elles doivent leur élection à Riverside. C'est le Parlement, le pire Parlement jamais élu partout dans le monde. Hein. On parle de 8% de participation. Hein. C'est un record mondial. J'ai bien cherché, j'ai jamais trouvé pire que ça. Mais les députés, ils sont très vocaux. Hein. Quand vous les entendez, les députés de Gebs, ils sont très vocaux. Mais ils ne s'adressent pas à la bonne personne. C'est-à-dire que le gouvernement est malmené aujourd'hui. À l'Assemblée, on peut avoir des interventions très vivaces. Moi, je me suis beaucoup intéressé au débat parlementaire sur la question de Gebs. Vous avez des députés qui s'adressent vraiment très, très durement aux responsables du ministère de la Santé, du ministère de l'Industrie, mais jamais au président de la République, qui est le véritable ordonnateur de tout ça. Ils savent très bien, on a eu 4 gouvernements qui ont changé depuis ces élections législatives, mais ça ne change absolument rien, parce que le pouvoir, aujourd'hui, le pouvoir réel est à Carthage, et que ces députés savent qu'ils sont là par la bonne grâce de Carthage, et donc ils remettent jamais en avant, ils remettent jamais en question ce pouvoir-là. Donc oui, là, il y a de la contestation, oui, on entend les députés, il y a aussi des conseils locaux, il y a une sorte de Sénat et des conseils locaux régionaux qui sont très durs dans la contestation, mais ils ne vont jamais s'attaquer frontalement à celui qui a la décision.
Le pouvoir des députés a de toute façon été très largement affaibli par la nouvelle constitution. Ils n'accordent plus la confiance au gouvernement, on leur demande plus de le faire. Ils ne peuvent plus démettre le président en cas de violation grave de la constitution. Sont-ils aussi, pour beaucoup, ont-ils été ces derniers temps soumis, les députés ou les députés de l'ancienne législature, à ce décret 54 dont on a pas encore beaucoup, beaucoup parlé dans l'émission, mais un texte qui, comme son nom l'indique, décret 54, n'est jamais passé devant l'Assemblée. C'est une loi très technique contre la cybercriminalité et les fausses informations. Comment ce décret a-t-il servi à Kais Saied et à ceux qui l'entourent, mais appuyé ici par les juges pour envoyer en prison ses opposants politiques?
Sophie, moi, je voudrais préciser une chose qui m'apparaît extrêmement importante dans la pratique actuelle du pouvoir. C'est que le chef de l'État, qui est un constitutionnaliste par ailleurs, et vous disiez tout à l'heure qu'il était totalement inconnu jusqu'à 2019, c'est faux. En fait, il a été un excellent client des médias.
C'est vrai, il était invité sur les plateaux télé.
Dans la mesure où il commentait tous les débats dans les grandes chaînes de télé, il commentait tous les débats sur la Constitution, justement, hein, pendant la période de l'Assemblée constituante. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître du pays, en réalité. Donc, c'était pas un inconnu.
Ce qui est songeur, hein, toujours sur la façon dont les médias dans le système, des
c'était pas un inconnu. Maintenant, le chef de l'État a dit à plusieurs reprises, et je crois que c'est central pour comprendre la pratique de pouvoir, que la séparation des pouvoirs, cela n'existe pas. Il n'y a qu'une séparation des fonctions. Voilà. Et donc, ça a été répété à plusieurs reprises, et c'est important pour comprendre comment on peut s'arroger donc l'essentiel des pouvoirs, puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Et donc, il y a une fonctionnalité, c'est-à-dire qu'un juge, est dépendant du pouvoir exécutif, mais fait son boulot de juge, parce que c'est une fonction. Et c'est à partir de cette différence entre séparation des pouvoirs et séparation des fonctions, qu'on peut expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui.
Et il faut bien voir aussi à Atem Naftis ce qu'a dit Kais Saied au moment où a commencé cette affaire dite du complot contre la sûreté de l'État. Les premières arrestations datent de février 2023. Le procès en appel, le jugement a été rendu là il y a quelques semaines, en novembre dernier. Lui, Kais Saied, au moment où commence cette affaire, il dit publiquement, celui qui osera les innocenter sera considéré comme leur complot.
Absolument. Ce qu'on a dit sur le pouvoir exécutif, sur le pouvoir législatif, vaut pour le pouvoir judiciaire. Kais Saied, depuis le premier jour, il a affiché la couleur. Il a voulu présider le parquet, et après il a dissous le Conseil supérieur de la magistrature. Et tous les contre-pouvoirs qui étaient imaginés pour assurer l'indépendance de la justice ont sauté. Aujourd'hui, il n'y a pas de Conseil supérieur de la magistrature. Les juges sont mutés à la bonne volonté de la présidente, de la ministre de la Justice. Seul personnage qui n'a pas bougé, il y a eu 4 gouvernements, la seule personne. C'est Madame Laila Jaffel, ministre de la Justice, qui est le vraiment inamovible dans ce dispositif, qui gère directement les magistrats, qui le président a licencié 57 magistrats sur la base de rapports de police. Ils ont 50 d'entre eux ont été rétablis par la justice. Il a refusé d'obtempérer. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune indépendance de la justice. Et même ce que prévoit sa propre constitution, à savoir un Conseil supérieur de la magistrature et une Cour constitutionnelle, donc qui serait à même de rééquilibrer un petit peu les pouvoirs, il ne veut pas en entendre parler. Sa propre constitution, il ne l'applique pas. Et ce qui fait qu'on a ces procès et on a ces verdicts qui seraient risibles s'ils n'étaient pas dramatiques.
Des verdicts qui concernent aussi bien d'anciens opposants politiques que des hommes ou femmes d'affaires ou des journalistes.
Et on ou parle... des députés, d'ailleurs.
Ou juste, des députés.
Juste un dernier mot.
Vraiment.
Le premier jour de la nouvelle législature, un député s'est fait arrêter sous les caméras. Ça a annoncé la couleur. Le jour même de l'installation de l'Assemblée, la police est venue sous l'hémicycle arrêter un député. Donc ça a annoncé la couleur.
Les journalistes également sont inquiétés aujourd'hui. On en parle avec Monia Ben Hamadi depuis Tunis, juste après cette chanteuse tunisienne, Emel Matlouti. La chanteuse tunisienne Emel Matlouti et cette chanson qui veut dire « Ma parole est libre ». C'est un poème écrit en 2006 par Amin al-Rozi et qui est devenu l'hymne de la révolution tunisienne qui a amorcé le printemps arabe fin 2010. Sous Kais Saied, la démocratie verrouillée en Tunisie. C'est le premier, vous suggériez un autre titre d'ailleurs Sophie Bessis, « Le chemin vers la démocratie qui est entravé aujourd'hui ». C'est le premier épisode de notre série consacrée à la Tunisie, « Les désenchantements d'une nation » et parmi tous ceux et celles aujourd'hui soumis à cet arbitraire du pouvoir, les journalistes aussi sont sommés de se taire.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La nouveauté actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de tentatives de contrôler les médias publics et nous faisons face à une forme de retour de la censure et de l'autocensure dans certaines institutions publiques. Cela se traduit par l'absence de voix dissidentes ou critiques dans les débats, par exemple.
Amira Mohamed, la vice-présidente du syndicat des journalistes tunisiens, ici interrogée par France 24 en 2023. Depuis le coup d'État institutionnel de juillet 2021, l'exercice des journalistes est soumis à cet arbitraire du pouvoir. Bonjour Monia Ben Hamadi.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Tunis. Vous êtes journaliste et correspondante du journal Le Monde en Tunisie. Et je vous remercie beaucoup d'abord d'avoir accepté notre invitation à nous parler des conditions de travail des journalistes en Tunisie depuis la capitale. Est-ce qu'en tant que correspondante pour un journal français sur place, est-ce que vous êtes un peu moins exposée que les autres ou pas spécialement ?
Alors, je ne sais pas si je suis moins exposé ou plus exposé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Tunisie, tous les journalistes et tous ceux qui osent s'exprimer librement peuvent prendre des risques et sont sujets à une forme d'arbitraire et à des intimidations ou à des empêchements qui rendent très difficile la pratique du journalisme en Tunisie.
Les journalistes étrangers installés à Tunis comme correspondants ont leur carte de presse, ils réussissent à l'obtenir, y compris depuis les autorités tunisiennes ?
Alors justement, aujourd'hui, plus personne n'a de carte de presse en Tunisie, c'est-à-dire ni les journalistes de médias tunisiens, ni les correspondants de presse étrangère. C'est très inquiétant. On est le 16 mars aujourd'hui, on est sans carte de presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout moment, on peut nous empêcher de faire notre travail, nous empêcher d'aller à tel ou tel endroit, de rentrer dans tel ou tel lieu, et nous laisser en fait à la merci des autorités en place, et ce qui rend encore plus précaire et ce qui nous rend encore plus vulnérables dans notre travail de journaliste. C'est assez inquiétant. Et aussi pour ajouter un petit détail, pour les journalistes étrangers, le fait de ne pas avoir leur carte de presse les empêche d'avoir leur résidence, et ça les met aussi dans une situation de vulnérabilité, comme je disais, par rapport aux autorités.
Là, vous précisiez que nous sommes le 16 mars. C'est parce que c'est la première année que ça arrive, que depuis le 1er janvier, vous attendez cette carte de presse qui n'arrive pas dans le courrier ?
En tout cas, pour les correspondants de presse étrangère, c'est la première année qu'ils tardent autant. Pour les journalistes de presse tunisienne, par contre, une grande majorité d'entre eux n'ont pas obtenu leur carte de presse de 2025, et c'est une bataille qu'ils sont en train de mener. Vous avez cité tout à l'heure Emira Mohamed et d'autres journalistes du syndicat des journalistes tunisiens qui sont en train de mener cette bataille et de demander à avoir leur carte de presse et à pouvoir travailler librement.
Quand vous avez eu Monia Ben Hamadi à suivre des procès, enfin est-ce que c'est le cas? J'imagine que vous avez souhaité suivre des procès qui ont concerné soit vos confrères et consoeurs, soit d'autres personnalités tunisiennes accusée notamment de complot contre la sûreté de l'État. Est-ce que vous êtes accrédité dans ces cas-là? Comment se passe pour les journalistes tunisiens cette volonté de suivre cette actualité très importante et d'en rendre compte dans les journaux, dans les radios ou les télévisions?
Alors normalement, un procès est public et accessible à tous, et à plus forte raison aux journalistes. Et là, en l'occurrence, par exemple, pour les affaires de complot et pour d'autres affaires assez sensibles, c'était selon la volonté et les instructions des autorités judiciaires. C'est-à-dire qu'il est arrivé plusieurs fois qu'on ne nous laisse pas l'accès aux audiences, notamment pour cette affaire emblématique du complot contre la sûreté de l'État, sans donner de raison et sans demander d'accréditation spécifique, c'est-à-dire que vraiment on est laissé à la merci de leurs instructions et de leurs décisions politiques par rapport à la possibilité de couvrir ou non les procès. Pas seulement les tribunaux, d'ailleurs, il y a des régions, comme la région de Sfax, pour des sujets liés à la migration, où il arrive souvent qu'on soit arrêté par des agents de la garde nationale qui nous demandent ce qu'on fait là, et qui nous disent qu'on n'avons pas le droit de travailler dans ces zones.
Est-ce que vous-même, qui êtes retourné en 2011 en Tunisie, que vous aviez quitté quelques années plus tôt, vous avez vraiment vu changer les conditions de travail des journalistes? Donc, vous arrivez en 2011, Kais Saied est élu en 2019, son coup d'État institutionnel date de 2021. Est-ce que, à chaque fois, chaque année, vraiment dans l'exercice de votre métier, les choses ont changé, ont évolué au fur et à mesure de la façon dont il lui-même étendait ses pouvoirs, ses prérogatives?
Oui, je suis d'ailleurs retournée en Tunisie juste après la Révolution pour profiter de cette nouvelle liberté acquise, et particulièrement de la liberté d'expression. Et à l'époque, il y avait une effervescence, des médias ont été créés, des journalistes ont pu faire leur travail, des débats politiques avaient lieu quotidiennement depuis le coup de force du 25 juillet 2021. Ce n'est plus du tout le cas, c'est-à-dire que aujourd'hui il n'y a quasiment plus aucune émission politique en Tunisie. Les opposants au pouvoir ne sont plus invités dans aucun plateau télévisé ou radiophonique, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a une désertification totale de la parole politique et publique dans les médias. Il y a des médias qui ont été fermés depuis. Des radios, des télés, et les journalistes ont tellement peur de poursuites judiciaires, voire d'emprisonnement, qu'un certain nombre d'entre eux s'auto-censurent ou changent carrément de métier.
Et sont de toute façon en contact avec des avocats, si j'ai bien compris, en tout cas savent qui contacter en cas de problème, quels avocats contacter en cas de problème, quand ces avocats ne sont pas eux-mêmes déjà inquiétés par le pouvoir en place. Peut-être pour conclure, puisque vous avez été Monia Ben Hamadi, dit, aujourd'hui vous êtes correspondante du journal Le Monde, mais vous avez aussi été directrice éditoriale du média indépendant Inkifada. Ces médias alternatifs comme Inkifada ou Nawat, est-ce qu'ils sont inquiétés de la même manière? Comment s'exerce aussi ou pas une forme de pression?
Alors, ils sont effectivement inquiétés, peut-être pas de la même manière, parce que ce sont des médias associatifs et pour le coup, il y a une attaque en règle des pouvoirs contre les ONG, contre les associations. On a vu plusieurs membres d'ONG humanitaires ou qui venaient en aide aux migrants qui ont été arrêtés et plusieurs autres ONG, dont ces médias associatifs, qui ont été suspendus. De manière, c'est-à-dire une décision juridique de suspension qui est un prélude à une éventuelle dissolution de ces médias associatifs ou de ces ONG en général et qui les laisse donc dans, c'est comme une épée de Damoclès sur leur tête où ils peuvent à tout moment avoir une procédure de dissolution et être empêchés de continuer leur couverture et leur métier de journaliste.
Le média Nawat notamment a été suspendu pour 30 jours il y a quelques temps, comme une sorte de coup de semonce. Merci beaucoup Monia Benhamadi d'avoir été avec nous depuis Tunis où vous êtes journaliste et correspondante du journal Le Monde. Et je voulais que Sophie Bessis et Atem Nafti qui vous ont écouté avec beaucoup d'attention peut-être disent un mot sur les médias critiques qui restent. On parle du journal arabophone Le Maghreb, par exemple, qui le fabrique, qui le lit aujourd'hui, ou ceux qui veulent continuer à exercer leur esprit critique, peuvent-ils se tourner, Sophie Bessis, en Tunisie, ou Atem Nafti, sur les médias qui subsistent, et cette autorité aussi audiovisuelle qui était censée être très indépendante, la AIK, équivalent tunisien, notre ARCOM, qui en septembre 2021, en pleine crise politique, un mois après la suspension du Parlement par Kais Saied, avait aussi dit attention aux chaînes de télévision et de radio, attention, vous êtes trop favorable aux décisions présidentielles. Donc elle avait vraiment manifesté son rôle de contre-pouvoir. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors en réalité, ça s'est fait de manière assez progressive. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on avait des médias, alors je parle vraiment de tous les médias, y compris les médias mainstream, jusqu'en, on va dire, on arrive même à dater jusqu'au 11 mai 2024. C'est assez précis. La tonalité dans la plupart des médias, en tout cas les médias les plus écoutés, était plutôt opposée à Kais Saied. L'expression, et d'ailleurs là aussi le pouvoir, se targuait de dire mais écoutez à la radio ce qu'on dit. Donc très vite les médias publics ont été mis au pas, ça c'est assez évident. Aujourd'hui quand vous lisez la presse de Tunisie, le grand journal francophone, vous avez l'impression de lire la Pravda, et on revient, ça nous rappelle aussi des éditos de l'ère de Ben Ali. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 2024, le pouvoir décide d'arrêter 3 journalistes le même jour. 3 journalistes d'ailleurs qui occupaient la même matinale à la radio. Donc Sonia Darmen, on en a beaucoup parlé. Votre confrère, j'en profite d'ailleurs pour dire que c'est à nos compatriotes français, qu'un de leurs compatriotes, Mourad Zridi, est un journaliste français, un ancien de Canal+, qui est en prison depuis le 11 mai 2024 pour délit d'opinion. Et donc depuis ces arrestations, ça a beaucoup changé. Donc les médias ne parlent quasiment plus de politique, ou ils en parlent peu, ou ils pèsent ce qu'ils disent. Les médias associatifs, qui sont effectivement les derniers remparts, ceux-là, il y a eu là aussi cette campagne qui les a touchés. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de zone grise où on continue à lire, par exemple, dans certains médias, on continue à lire quelque chose, mais ça parle à très très peu de personnes. C'est ça aussi, c'est un petit auditoire. Vous parliez du Maghreb ou Nawat, ça parle à très peu de monde, hélas.
Et c'est fait par peu de monde. En tout cas, merci beaucoup, à vous deux d'avoir été avec nous dans Culture Monde et merci d'avoir adressé une pensée. On se joint bien sûr à vous, à Mourad Zeghidi et à tous les autres qui sont aujourd'hui en prison en Tunisie, a priori pour leurs opinions, même s'il s'agit toujours pour la justice de dire qu'il y a eu des tournements d'argent. Absolument. Où on va chercher blanchiment d'argent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Atem Nafti, je rappelle le titre de votre livre, Notre ami Kais Saied, essai sur la démocrature tunisienne aux éditions Rive Neuve. Merci beaucoup, Sophie Bessis également. Et même si ça n'a pas de rapport avec la Tunisie, je précise que votre essai, La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, apparu dans une nouvelle édition augmentée au Lien qui libère. Vous étiez venu en parler cet été sur France Culture. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Revue de presse au Venezuela aujourd'hui, Catherine, où ce matin l'activité reprend peu à peu dans le secteur pétrolier et gazier. Sur les eaux du lac Maracaibo s'étend une forêt de plateformes rouillées et de chevalets de pompage avec leurs balanciers à l'arrêt. Jadis l'un des gisements pétroliers les plus productifs au monde, le lac et la ville qui le borde dans l'ouest du Venezuela symbolisent l'effondrement de tout un pays. Mais ces dernières semaines, le Financial Times a observé des jets privés qui commencent à affluer vers Maracaibo alors que l'entreprise française Morel Edrom va lancer un forage dans le lac. Des pétroliers acheminent aussi davantage de pétrole brut depuis les eaux de Maracaibo, poursuit le Financial Times. Une timide reprise d'activité, vous le disiez, qui incarne les espoirs de chefs d'entreprise venus des États-Unis ou d'Europe pour que la production d'hydrocarbures augmente au Venezuela, rendant possible les exportations, indique le Financial Times et le quotidien vénézuélien El Universal, le tout dans un marché sous tension avec la guerre au Moyen-Orient. Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du Venezuela, s'est félicitée de conclure un accord avec l'Italien Eni et l'espagnol Repsol la semaine dernière pour accroître la production de gaz, c'est ce qu'annonce la chaîne d'État Venezolana de Televisión, mais aussi la Repubblica, il Giornale ainsi qu'El País et El Economista.
Este acuerdo que hemos firmado no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país.
Cet accord garantit non seulement l'approvisionnement de notre pays en gaz pour son développement national et sa consommation intérieure, a déclaré la présidente par intérim du Venezuela, mais il permettra aussi d'accroître les exportations de gaz et autres, compter sur le Venezuela pour développer des projets qui se traduisent par des bénéfices partagés pour nos pays, a salué Delcy Rodriguez, cité par l'AFP en espagnol, et Il Sole 24 Ore. Cet accord a été signé pour le développement de Cardón 4, l'un des plus grands gisements de gaz d'Amérique latine, précise le journal Publico, l'un des rares projets vénézuéliens à bénéficier d'une production stable, note encore El Economista. En plus de Repsol et d'Eni, le britannique Shell a également conclu un accord avec le Venezuela, ajoute Efe Notifias et Reuters. Le géant pétrolier public Petroleos de Venezuela a officialisé des contrats pour la fourniture de pétrole brut et de produits dérivés vers les États-Unis, indique le Financial Times, mais tout contrat doit être régi par le droit états-unien, souligne le quotidien El Nacional. Alors que les prix du pétrole flambent donc en raison de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, les responsables de Caracas et de Washington espèrent que le Venezuela en tirera profit sur le plan intérieur, tout en allégeant le prix à la pompe aux États-Unis avant les élections de mi-mandat de novembre prochain.
Et encore faut-il pouvoir moderniser les infrastructures pétrolières et gazières au Venezuela.
Trouver de la main-d'œuvre qualifiée aussi dans un pays où la crise économique et la répression politique de ces dernières années ont poussé près de 8 millions de Vénézuéliens à fuir leur pays, rappelle le Financial Times. Les analystes estiment qu'il faudrait un investissement colossal, plus de 100 milliards de dollars sur 10 ans pour que le Venezuela retrouve son niveau de production record d'environ 3 millions de barils par jour au début du siècle. Alors cette année, selon les organisations patronales au Venezuela, la production pourrait frôler le 1,5 million de barils par jour. Et à Maracaibo, nous étions en début de chronique, une ville qui subit encore des coupures de courant, où la pauvreté s'est aggravée après une marée noire en 2023, diminuant à peau de chagrin les moyens de subsistance de centaines de pêcheurs, indique le Financial Times. Des familles souffrent de la faim, confie José Luzardo au quotidien britannique. Mais tandis qu'un héron, noirci par le pétrole, plongeait dans le lac derrière lui, ce pêcheur vénézuélien a dit espérer le retour des entreprises et la création d'emplois pour tous.
Pour conclure, Catherine Dutu, on apprend dans la presse internationale que la Corée du Nord exploite l'intelligence artificielle pour arnaquer des entreprises occidentales.
Et ainsi lever des fonds pour le régime de Pyongyang. Microsoft a bloqué 3000 comptes liés à des escroqueries nord-coréennes et recommande désormais des vérifications lors des entretiens d'embauche, annonce le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo. Cette escroquerie implique généralement des fraudeurs soutenus par l'État qui postulent à des emplois informatiques à distance. En Occident, précise le Guardian, ils utilisent de fausses identités, falsifient des CV, piratent parfois des comptes LinkedIn inactifs et se servent donc de l'intelligence artificielle pour créer des avatars numérique des deepfakes, se faisant ainsi passer pour de vrais candidats à l'embauche. Une fois recrutés, ils envoient leur salaire à Pyongyang et peuvent même divulguer des données confidentielles de l'entreprise pour laquelle ils ont été recrutés. Cette mini-armée d'agents informatiques nord-coréens a fait gagner près de 7 millions de dollars à la Corée du Nord, rapporte le Financial Times, signe que l'avenir de la sécurité nationale de nos pays en Occident dépendra aussi de la capacité du secteur privé à authentifier ses employés au moment des entretiens d'embauche.
Merci Catherine Dutu.